Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. J'espère que ta semaine s'est bien passée et que tu as apprécié le dernier podcast sur le métier de professeur du secondaire. En ce mois de mars, on continue sur notre lancée, toujours sur le métier de professeur, mais cette fois-ci dans le niveau des études supérieures, en classe préparatoire HEC. Je te souhaite une bonne écoute. Donc, Madame Lorgeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en prépa HEC depuis 2010 au lycée Chaptal à Paris. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la formation que vous avez suivie et aussi ce que vous avez appris lors de vos études ?
Alors, je suis montée à Paris, comme on disait autrefois, moi-même en classe préparatoire, en Hippocagne, puis en Cagne. Et à l'issue de 3 années de prépa, j'ai rejoint la Sorbonne, Paris 4, où j'ai passé licence, maîtrise, DEA, etc. Voilà. Ce que j'y ai appris, alors dans la partie prépa, beaucoup de choses, parce que vous le savez, c'est une formation pluridisciplinaire. Mmh. Et donc ce que j'ai surtout appris, c'est à faire le lien entre les différentes disciplines. Et puis ensuite, une fois de retour à l'université, alors j'ai suivi essentiellement un cursus de littérature, une littérature antique classique, mais j'ai également tâté un peu de papyrologie, un petit peu de grammaire, un petit peu d'épigraphie, voilà. Donc,
vous pouvez nous en dire plus sur la papyrologie ?
Oh, un souvenir ému. C'était un module au choix et il y avait une ambiance un petit peu Indiana Jones de salon, si je puis dire. C'était tout en haut de la Sorbonne, vraiment dans les combles, vous voyez le petit escalier en bois caché, etc., avec le rayon de poussière pour accéder à la porte. Et donc notre professeur nous apprenait à l'époque sur photocopie de très haute qualité à décrypter l'écriture grecque de papyrus d'Alexandrie.
Vous êtes venu cet attrait pour les sciences humaines, en particulier pour les lettres classiques ?
Alors, pour les lettres classiques, c'est très petit, hein, à la télé, tout simplement. Hein, j'ai très vite été attirée par, on va dire, l'esthétique gréco-latine. Et puis, mes parents m'ont fourni des livres, etc. Et notamment, j'ai eu la très grande chance de pouvoir lire l'Odyssée en face de l'île d'Ithaque, un jour de vacances. Je l'avais emmené, on m'emmenait en voyage en Grèce, et je ne savais pas que j'allais aller à Ithaque. Et alors donc c'était un souvenir ému, hein, voilà, c'était Homère sur site. Voilà, et depuis, je ne l'ai plus lâché.
Et vous aviez un goût pour la traduction, les thèmes ?
Oui, vraiment la traduction, c'est dans l'exercice des lettres anciennes ce que je préfère, et en particulier... j'ai une grande curiosité pour les intraduisibles.
Comment ça ?
Alors, les intraduisibles, ce sont ces termes que l'on ne peut pas faire passer d'une langue à l'autre et qui sont donc, d'une certaine manière, les révélateurs, on va dire, de l'esprit d'une langue. Voilà, donc il y en a quelques-uns comme ça. Par exemple, pour le grec, un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est « arete », « vertu ». Mais qui ne... En fait, ça ne veut pas du tout dire vertu. On le traduit par vertu, mais ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Et ce qui fait que, lorsque l'on fait cours en langue ancienne, il me semble que le principal intérêt, c'est justement d'enlever les malentendus que l'anachronisme et la différence de civilisation créent naturellement chez les gens.
Et vous sentez que les élèves sont toujours autant intéressés par les langues anciennes de nos jours ?
Quand ils sont dans le cours, oui.
Oui. Et en général, dans votre classe prépa, par exemple ?
Et alors, dans ma classe prépa, quand j'ai commencé à étudier en classe prépa il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, j'avais beaucoup d'anciens latinistes qu'on avait recrutés. Et là, maintenant, ils n'existent quasiment plus. Et pourtant, je sais que quand je fais cours sur la partie antique, ils sont toujours aussi intéressés. Donc ça me navre, j'en suis désolée, mais je crois que l'un des gros obstacles désormais, c'est le sentiment de l'inutilité d'apprendre une langue, en fait.
Une langue morte, surtout.
Une langue morte, surtout.
Et l'étymologie ?
L'étymologie fascine toujours autant. D'accord. La mythologie fascine toujours autant.
C'est l'exercice de traduire qui ne leur...
J'en ai peur, c'est l'apprentissage d'une grammaire et de vocabulaire, c'est-à-dire cette phase absolument, pour l'instant, me semble-t-il, indispensable d'apprentissage systématique par cœur. C'est vrai que l'habitude de traducteur automatique, désormais, la capacité de retrouver les informations immédiatement dans notre poche, fait que cet effort de mémorisation devient lourd, très lourd, et que finalement, autant ils aiment bien ce type de pépite, de découverte curieuse, autant l'apprentissage même de la langue. Et j'ai l'impression, quelle que soit la langue morte bien sûr, mais même maintenant les langues vivantes commencent à être touchées.
Comment le sentez-vous ça par rapport aux langues vivantes ?
Je dirais que le latin et le grec ont été un petit peu aux avant-postes de la chute de l'apprentissage des langues, mais le français lui-même maintenant est touché, je le vois bien, même lire des textes du 19e siècle commence à être difficile pour pas mal de mes étudiants. Donc les langues sont en mutation rapide, et c'est pas très étonnant compte tenu de l'évolution technologique, hein, bien sûr. Et puis encore une fois, il y a un changement dans la culture de l'écrit. On est plus de moins en moins dans la civilisation du livre. Donc il y a une espèce de néo-oralisation, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, qui est en train de se mettre en place et qui fait qu'évidemment tous les repères sont un peu bouleversés.
Pour en revenir à votre métier, qu'est-ce qui vous a poussé justement à être professeur de classe préparatoire ?
Alors d'abord l'excellent souvenir que j'en avais. J'y ai passé des années vraiment formidables.
Vous avez fait 2 ans ou 3 ans ?
3 ans.
D'accord.
Je m'y sentais bien. Écoutez, contre tous les clichés que l'on peut avoir dessus, quand on est un petit peu déchargé, c'est souvent le cas en lettres, de la pression de la réussite au concours, ce sont des années de découverte vraiment, en tout cas, qui m'ont confortée dans mon goût de la chose scolaire, premièrement. Et puis, ensuite, je suis devenue professeure dans le secondaire, je veux dire professeure tout à fait classique. Puis je voyais, néanmoins, je reste antiquisante. Et je voyais bien qu'il devenait de plus en plus difficile de faire des langues anciennes à un niveau qui me satisfaisait.
Vous étiez professeure au lycée ?
J'ai tout fait. Collège, lycée, banlieue, campagne, je crois que j'ai à peu près vu tous les publics, oui, c'est vrai, je peux le dire. Et maintenant au grand lycée parisien et ici avec vous à l'université.
Comment avez-vous vu le métier évoluer au cours des années, justement, vu que vous avez touché tous les publics possibles ?
Alors, du point de vue du professeur,
oui.
D'abord, une charge de travail exponentielle. parce que, tout d'abord, très simplement, mais la numérisation, je ne sais pas comment vous le vivez, qui êtes quasiment né dedans, un peu, voilà. Mais pour nous, il a fallu, d'abord, bien sûr, nous former, mais au-delà de ça, la mise en page d'exempliers propres, élégants, etc., est tellement plus lente que le fait de jeter des idées sur un cahier et de les noter à la craie sur un tableau, que le travail à la maison s'en est vu décuplé. Donc déjà, la mise en page de cours, simplement, de création de contenu. Peu à peu, nous sont revenues des tâches qui aussi incombaient autrefois aux surveillants. Faire la perle, on l'a toujours fait, mais désormais, la gestion de pronotes sur les ordinateurs, le suivi des absences, etc. Donc, petit à petit, des tâches qui n'étaient pas les nôtres ont fini par nous être déléguées.
Les plus grandes tâches administratives, en fait.
Oui. Oui, disons-le. Mais comme je pense dans plein de métiers, oui. Dire vrai, il n'y a rien de spécifique à cela. Ça, c'est, j'allais dire vraiment, c'est ce qu'il y a de plus marquant au quotidien du travail. Sur le rapport avec les élèves, c'est pas un mystère, il est tendu désormais majoritairement. Ça n'est plus mon cas depuis plusieurs années.
Oui, en prépa, j'imagine bien que...
Ça peut arriver.
Quand même.
Mais parce qu'on a des fortes personnalités.
Oui.
C'est pas le même type de problème que l'on peut avoir. On a des personnes mûres, si vous voulez. Donc, les collègues du secondaire sont souvent confrontés à de la violence immature. Et ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Vraiment, je l'ai été moi-même, hein, bien sûr. Le rapport de force mûr, c'est encore autre chose. Donc, ça peut arriver. Hein, mais évidemment, c'est moins systématique et c'est moins fréquent, disons-le clairement. Donc, il y a ça, bien sûr. Mais si j'écoute les plus anciens que moi, je crois qu'il faut un petit peu se souvenir que ça n'a pas toujours été rose avant,
oui.
Non plus. Il faut quand même le dire. C'est un métier d'autorité et ce n'est pas facile. Voilà. Et puis sinon, j'allais dire le vrai changement, me semble-t-il, c'est le refus d'apprendre, mais la difficulté à apprendre désormais.
J'en reviens justement au niveau de votre formation. Se faire une place a-t-il été difficile alors que vous sortiez de la Sorbonne et non de l'ENS comme la plupart des professeurs de classe préparatoire ? Si j'ai bien compris, il y a un classement, oui. C'est cela ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'ENS, en fait, accélère les carrières. Et quand on veut devenir professeur de classe préparatoire, on le devient vite grâce à l'ENS, mais aussi grâce au classement de l'agrégation. Alors, j'avais un plutôt bon classement à l'agrégation, mais c'est un milieu que je ne connaissais pas. Et donc, je n'ai pas fait de demande, et donc, je ne suis pas allée voir. Enfin, vous voyez, tout simple, c'est tout simple. Donc, je pense que j'aurais pu le faire plus tôt, mais je ne voulais pas spécialement me faire une place. Et donc, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. Et si je suis là maintenant, j'allais dire, c'est grâce au travail, bien sûr, mais c'est grâce aussi aux occasions, en fait, qui se sont présentés, que j'ai saisi.
Et en tant que professeur de classe préparatoire, pouvez-vous m'expliquer une journée type ou ce qui s'en rapproche le plus ?
Alors, ce qui s'en rapproche le plus seulement, parce que en classe préparatoire, nous ne devons finalement qu'assez peu d'heures de cours.
Vous avez 15 heures de cours ?
Alors ça, c'est en tant qu'agrégé. Mais en tant que professeur de classe préparatoire, je ne dois que 8 ou 9 heures. Parce que une heure de classe préparatoire, j'allais dire l'heure de, enfin le décompte de préparation de cours est inclus en fait dans cette décharge horaire. Notre emploi du temps est complété par ce qu'on appelle les calls, c'est-à-dire des interrogations individuelles avec nos étudiants. Et c'est la grande différence avec l'université, évidemment. Donc une journée type, prenons par exemple celle où je vous vois quand je viens à Tours, à savoir le mardi, et bien après les obligations familiales, où je ne puis être libérée qu'à 8h20, une fois que les enfants sont à l'école, il me reste une demi-heure pour rejoindre l'autre bout de Paris, à savoir la gare Saint-Lazare, près du lycée Chaptal, donc, où mes cours commencent à 9h, ils finissent à 13h, En général, mon peu de récréation est mangé par les questions des étudiants, qui sont fort nombreuses. Puis après, à 13h, quand je viens vous voir, je file immédiatement gare Montparnasse, oui. Pour vous retrouver l'après-midi. Et puis quand je ne viens pas vous voir, justement, j'ai une heure pour déjeuner et ensuite j'enchaîne donc ces fameuses calls où je vois mes étudiants 3 par 3 et où je peux mieux les connaître.
Donc, justement, vous dites que vous venez nous voir à Tours. Je vais juste expliquer à nos auditeurs. Depuis peu, vous enseignez à la faculté de Tours. Votre cours s'intitule « Écrire et décrire les étoiles dans la sphère culturelle latine de Cicéron jusqu'au XVe siècle ». Pouvez-vous nous en dire plus et comment avez-vous obtenu ce poste ?
Alors, je l'ai obtenu parce que j'ai soutenu une thèse de doctorat, d'abord en études grecques, qui concernait les rapports entre l'écriture pédagogique et notamment la poésie dite didactique la matière astronomique dans la culture antique. Alors essentiellement grec encore une fois, mais j'ai aussi touché un petit peu de latin. Je n'ai jamais perdu complètement contact avec l'Académie d'Orléans-Tours qui est mon académie d'origine. Et notamment, j'assistais de temps en temps encore aux journées des langues anciennes organisées par mes collègues de votre université. Et puis, une fois que j'avais, on va dire, rodé mes cours de classe préparatoire, je me disais, tiens, c'est dommage que je ne fasse rien de mes recherches et j'aimerais bien voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'université, d'autant plus qu'en classe prépa, on commençait à se dire que vont devenir les études supérieures, est-ce qu'il y aura un rapprochement avec l'université. Donc je me disais, voilà, il faut vraiment que je connaisse l'université. Et donc, c'est à l'occasion de ces journées que je me suis présentée à mes collègues et que j'ai offert mes services. Et je pensais qu'elles auraient simplement besoin d'un petit aidé. Et finalement, elles m'ont offert la formidable possibilité de parler de mon sujet de recherche.
Et donc, pour vous, quelles sont les perspectives d'évolution à venir ?
Alors, ça dépend si elles sont voulues ou subies. si elles sont voulues, eh bien, ce sont les cours de langue ancienne en hippocagne, en cagne. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui est possible. En tout cas, pour l'instant, je ne veux pas quitter l'enseignement. C'est vraiment ce que je préfère. On peut toujours devenir inspecteur. On peut toujours devenir... Voilà, vraiment, j'adore l'enseignement. Donc... voilà, je peux peut-être aussi faire publier ma thèse un jour, il faudra que j'y pense. Voilà, mais pour l'instant, je vous avoue que je suis très contente de ce que je fais. Donc,
Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce que vous enseignez aux prépa HEC justement ? Parce que eux, ce sont plus une prépa liée aux mathématiques, à l'anglais peut-être, oui. À la logique. Que vient faire une professeure de langue ancienne justement en classe HEC ?
Alors, le cadre dans lequel j'interviens s'appelle le cours de culture générale lettres. Donc il ne s'agit pas de littérature, mais il s'agit, on va dire plutôt d'histoire des idées et histoire des arts. Et donc, si vous voulez, je mets du contenu artistique sur les problématiques que mes collègues de philo développent avec eux. Ma culture d'antiquisante me permet de leur montrer en regard, c'est ça qui m'intéresse le plus, ce que c'est que la modernité. Parce que finalement, c'est une filière très axée non seulement sur la modernité, mais sur l'extrême actualité. Et très souvent, beaucoup d'entre eux, c'est bien normal à leur âge, manquent encore de recul. Souvent, le recul, on leur demande sur 100 ans. Mais évidemment, quand c'est un recul sur 2000 ans, c'est un peu autre chose. Et donc, les professeurs de culture antique ont toute leur place dans les filières contemporaines, me semble-t-il.
Oui, parce qu'en fait, pour intégrer une école, enfin, même de toute façon, pour former les futurs commerciaux, les futurs managers de demain, il faut quand même qu'ils aient une analyse, un esprit critique, une culture générale, et pas seulement qu'ils soient des têtes à mathématiques, excusez-moi l'expression.
Oui, absolument. Alors, c'est un public très varié que j'ai découvert à cette occasion. Arrive en prépa HEC, bien sûr, des forts en maths, ça c'est certain, des gens très impliqués, on va dire, dans le monde international, donc très langue vivante aussi, mais aussi des gens qui s'intéressaient à la géopolitique, aux sciences humaines, à la littérature, à l'art. J'ai des gens extrêmement cultivés dans mes classes, hein, donc il y a vraiment de tout. Maintenant, en effet, à la différence des futurs universitaires qu'on forme en général dans les universités ou en hippocagne, ce sont des futurs acteurs. Et donc, l'idée, c'est que lorsqu'ils vont prendre une décision, ils la prennent en connaissance de cause et avec un recul historique et philosophique et moral nécessaire et suffisant.
Dans l'enseignement post-bac, quels sont les points, selon vous, qui mériteraient d'être améliorés en classe préparatoire ? J'ai vu qu'il y avait plusieurs réformes qui ont été mises en cours, dont une qui a été annulée.
Oui. Alors déjà, il y avait une diminution annoncée de la culture générale. Inutile de vous dire que ça me navrait profondément.
Oui.
D'autant plus qu'il nous arrive maintenant des jeunes gens qui ont d'énormes difficultés à l'écrit, nous en parlions, voilà. Pour le voir dans le monde professionnel, c'est un handicap terrible. Donc la prépa est devenue l'endroit quand même, ou en tout cas c'est la mission que je me donne un petit peu, j'allais dire de remettre à niveau, de faire connaître à ces enfants qui ne connaissent pas forcément le milieu des affaires, les standards d'écriture, l'exigence quoi, du monde professionnel.
Et donc, parmi ces réformes, c'est ça, j'ai retrouvé, il y avait la suppression de 4 classes préparatoires, dont une section d'Hippocagne et de Cagne. Pourquoi ces choix, selon vous ?
Alors, je peux d'autant plus vous en parler que l'une des Cagnes, c'est la mienne. Enfin, c'est oui. Celle du lycée Chaptal. Donc, il se trouve voilà, que je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs raisons au niveau macro-structurel, micro-structurel. Mais pour faire simple, la particularité de la Cagne de Chaptal, enfin, c'est qu'il y a 2 Cagnes pour une Hippocagne au lycée Chaptal. Et donc, ça faisait très longtemps que les restrictions budgétaires menaçaient, en effet, j'allais dire, de rationaliser la chose et de ne faire qu'une seule classe, Hippocagne-Cagne. Voilà. Donc, pour l'instant, cette suppression est suspendue. Voilà, nous verrons. Je ne peux pas en dire plus. D'abord, je n'en sais rien. Oui. mais les annonces budgétaires nationales, voilà. Bref, ne me rendent pas forcément très optimiste sur l'affaire.
Pour continuer sur cette ligne, pouvez-vous nous parler du CPES, donc le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, et ses différences avec une classe préparatoire classique ?
Écoutez, très peu. Franchement, je vais vous le dire, très très peu. J'ai enseigné l'année dernière dans un lycée qui disposait de ce système, le lycée Henri IV, pour ne pas le nommer. Nous le connaissions très peu. Ils étaient dans un endroit à part du lycée, voilà. J'ai assez peu de contacts et je vous avoue avoir eu assez peu de nouvelles sur l'affaire. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une prépa indifférenciée, hein. C'est peut-être la différence majeure. Alors, disons qu'en tout cas, je vais peut-être plutôt parler de ce que je connais, à savoir la classe prépa. Nous, notre interlocuteur principal en tant que prépa HEC, ce sont les écoles de commerce. Donc nous leur fournissons leurs futurs étudiants. Donc nous avons en fait 3 interlocuteurs. Notre tutelle du lycée, le ministère et l'inspection générale, mais aussi ces écoles de commerce qui font des concours et quelque part nous formons nos étudiants à réussir ces concours. Donc ce sont... je pense que la CPES doit fonctionner différemment à ce niveau-là.
Le taux minimum d'élèves boursiers devait être de 30% par établissement. Est-ce le cas du lycée Chaptal ?
C'est le cas.
Comment aider les élèves... Déjà, très bien. Comment aider les élèves issus du milieu défavorisé à accéder à ce type de cursus, selon vous ?
Alors, tout d'abord, je dois dire que depuis que j'y suis, le recrutement a effectivement fait la part nécessaire aux classes défavorisées. Et disons que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui n'osent pas. Ceux qui n'osent pas, il me semble que la solution la plus simple, elle va peut-être venir d'initiatives comme la vôtre, à savoir que l'orientation se fait désormais plutôt entre pairs, entre gens du même âge, je crois, hein, oui. Entre bruit, etc., que finalement un conseiller d'orientation, parfois le professeur a toujours son rôle à jouer, mais c'est surtout entre vous que les choses se passent maintenant, il me semble. Donc il faut absolument, et j'y encourage toujours mes étudiants, mais il n'y a pas de structure pour le faire, retourner dans leurs anciens établissements, parler de leur formation et leur dire que ce n'est pas l'horreur que tout le monde décrit. Voilà, ça c'est la première des choses.
Donc, malheureusement, il ne nous reste plus que 2 petites minutes avant de clore cette interview, parce que là, je sens les étudiants qui veulent rentrer dans la salle bientôt. Ouais. Alors, une dernière question. Que ce soit en tant que professeur de classe préparatoire ou enseignant, tout simplement, avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager ?
Oh, j'en ai plein. Mais ce n'est pas forcément en tant qu'enseignant de classe préparatoire, c'était en tant que prof de collège dans le Loiret. J'enseignais à une quatrième... charmante, hein, mais voilà, qui n'avait pas beaucoup d'ambition scolaire. Un gamin qui s'appelait Jimmy, je m'en souviendrai longtemps, qui était un enfant placé, enfin, en grande difficulté, qui suivait mes cours de latin. Et quelques années plus tard, à la gare de Vierzon, j'entends derrière moi la phrase suivante: Sentio teiam novisse, qui signifie en latin « je crois qu'on se connaît ». Et donc c'était lui. Il était devenu ouvrier, tourneur-fraiseur, je crois. Et il avait appris à tenir une conversation en latin. Voilà, un des souvenirs émus que je garde et je pense à lui souvent.
Eh bien madame, franchement, je vous remercie pour cette interview. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps ensemble.
Écoutez, tout le plaisir était pour moi, vraiment.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt !